Radio Silence, bonjour et bonne année 2024, que cette année soit heureuse hein. Et beaucoup de bonnes choses à vous tous, amis de Radio Silence. Vous écoutez Flash sur le monde par Élise Mbok. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe en Amérique et peut-être un peu de la France. Et l'émission va s'intituler Coup d'État préventif en Amérique. Pour commencer cette émission, je pensais l'autre jour en réfléchissant au rapport entre Israël et les États-Unis. Je pensais à Lacan qui disait « Je est un autre, je est un autre ». Et quand j'avais entendu ça à l'université, je me disais « Je est un autre, donc je suis quelqu'un de dédoublé ». Oui, dans la pensée, parce qu'on a des dialogues intérieurs, internes, où on parle, on a l'impression qu'on parle avec quelqu'un d'autre. Je est un autre, c'est intérieur, c'est dans l'intérieur, je ne sais pas si c'est le subconscient, si c'est la conscience, si c'est l'inconscient, mais ça c'est d'autres plans. Mais il y a ce jeu-là, nous tous, nous l'avons connu, où on dit, il y a une petite voix qui me dit, on dialogue constamment avec nous-mêmes, donc je est un autre, avec cet autre nous-mêmes. Puis il y a la confrontation en extérieur, dans les relations interpersonnelles, entre je, moi et l'autre. Voilà. Et bien sûr, Sartre disait que l'enfer c'est l'autre, le regard des autres, mais ce n'est pas dans ce sens que Lacan lui le dit. Il dit « je me constitue par opposition à l'autre, tout comme cet autre aussi, m'aide à me construire ». Donc il y a cette relation de réciprocité qui fait qu'on a parlé d'alter ego, quand il y a vraiment un effet dans la relation, vous savez, vous pouvez avoir une relation en miroir, le reflet de l'autre vous revient comme un miroir, et c'est un peu ça qui se joue dans les rapports de séduction. Et vous avez aussi cet autre effet où c'est plutôt un rapport d'altérité qu'il y a entre vous et cet autre. Et là, c'est vraiment ce qui se joue dans les jeux de pouvoir. Donc, jeux de pouvoir, je pense à Israël. Israël, Gaza, je ne vais même plus dire Gaza parce qu'Israël est dans une grande croisade. C'est les croisades qui apportent aussi les guerres de pouvoir à l'étranger, au lointain. Ils veulent constituer ce grand pôle israélien qui a existé dans l'OTAN quelque part. Et ce grand Israël nécessite qu'on mange un peu de partout, on bouffe un peu du territoire pour tout le monde. Ça commence par Gaza, mais ça, tel que le Premier ministre Netanyahou l'a présenté aux Nations Unies, la carte futur du grand Israël, tel que lui, il projette son État, c'est quelque chose qui va grignoter dans tous les États. Et bon, si aujourd'hui, dire ça, c'est d'une arrogance incroyable, mais on se dit, il compte sur qui et sur quoi ? C'est là, vous voyez, je est un autre, il compte sur les États-Unis, évidemment. Il compte sur les États-Unis. Et ce n'est pas un hasard de calendrier si ça arrive maintenant, bien avant les présidentielles de novembre 2024, que Trump, s'il n'est pas disqualifié par tout ce qui se joue autour de lui dans la justice, on va en parler, il faut agir avant. Il faut agir, c'est pour ça que je parle de coup d'État préventif contre Trump. Il faut agir avant parce que Trump, lui, autant Biden, et dans cette relation de « je est un autre », relation de séduction, parfait miroir entre Netanyahou et le président Biden, qui sont pour un agenda globaliste, un agenda, le New World Order. Ils sont pour des nations sans frontières. Mais quand on dit sans frontières, c'est d'ailleurs curieux parce qu'Israël est là dans une forme de contradiction où à la fois il trace un État avec des frontières telles qu'ils le définissent, et puis ces frontières prennent même un accent religieux. Et de l'autre côté, l'Amérique ne doit pas s'occuper de ses frontières. Il faut qu'il y ait un transborder, les gens entrent comme ils veulent. On a même assisté récemment à New York à une école qui a fermé sur ordre de l'État parce qu'il faut loger les migrants dans cette école. Les enfants feront des cours par Internet et à distance. Les enfants de moins de 15 ans, je ne sais plus, vous verrez les conséquences. Non, les enfants de plus de 15 ans. Ceux de moins de 15 ans, bon, enfin bref, ceux de moins de 15 ans pourront peut-être être là. Je ne sais pas comment ils vont se partager l'espace avec les immigrés. Enfin, c'est une histoire de fou. Donc, l'idéologie de M. Biden, globaliste, sans frontières, sans identité, bien sûr, avec des sociétés qui font des super profits, c'est des super profits, c'est-à-dire à partir du vent, la plupart du temps, ou alors en voulant nous vendre des produits vraiment frelatés, parce qu'on apprend que l'usine de Bill Gates, qui a acheté l'OMS, se proposait fabriquer la viande artificielle, le proposait la vendre, et ce qui allait avoir des. Enfin, on apprend beaucoup de choses vraiment sur le médicament et l'alimentaire utilisés comme armes biologiques, précisément pour transformer l'ADN, pour plus robotiser les êtres humains et aussi plus les déconscientiser, quelque chose comme ça. Bon, ce sont des études sordides, on entend, puis on ne sait pas trop, mais on voit très bien que tout ce qui est, comment on va dire, trafic, voilà, parce que c'est ce que M. Biden aussi cautionne. Tout ce qui est trafic, on a vu les trafics sexuels avec la liste de Epstein qui sort là, qui est terrible parce qu'on nomme toutes les stars, ce qu'on appelle les stars, que ce soit le monde médiatique, que ce soit le monde politique, que ce soit le monde culturel, etc. Même les top modèles, voilà, qui ont été obligés de passer par des rites, on va dire, sorciers, où on mange de la chair humaine, où on sacrifie des êtres humains, mais surtout où on pratique la sexualité avec des enfants, dont tous des pédophiles, hommes et femmes confondus, bien sûr. Et ce sont les grands dirigeants de ce monde, les noms sont connus. Vous savez, c'est terrible. On ne sait pas quoi dire, mais on apprend que derrière cela, en fait, c'est toujours ce jeu de jeu est un autre dans l'altérité ou dans la séduction façon au jardin d'Éden, hein, c'est-à-dire que je vous présente la pomme, mais en fait c'est pour mieux vous tenir. C'était un réseau donc qui serait affilié au Mossad, c'est-à-dire que le Mossad s'est greffé par la suite sur le réseau d'Epstein, qui était évidemment commandité pour cela. On a enregistré les ébats avec les gamines et les gamins. Moyennant quoi, une fois qu'on vous avait enregistré, à votre insu, bien sûr, on peut vous faire tous les chantages possibles et vous étiez obligé de dire ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire ce que l'agenda 2030 du Nouvel Ordre Mondial vous commande de dire et de faire. Et puis, voilà, vous devenez, comme on a dit, des automates malgré vous par ce chantage-là horrible. Donc, à la fois, c'était un piège et aussi une volonté de pouvoir. Alors, Trump, là-dessus, il est vraiment dans une forme de rupture par rapport à la philosophie de Biden, parce que Trump, c'est l'anti-Biden. Alors, derrière Biden, ou derrière son élection et le combat pour sa réélection, c'est ça qui se joue. Ce qui se joue, c'est tout ce que le système produit, que je viens d'énumérer, et qui fait que si Trump arrive, ça peut, pas ça peut, mais ça va basculer, d'abord parce qu'il est Il n'a pas fait de guerre, donc lui, il est contre la guerre. Mais il faut aussi dire quand même, parce que M. Trump a aussi est l'auteur des accords d'Abraham, Quand on voit, on entend accord d'Abraham, on se doute bien que c'est les deux fils d'Abraham hein, dont on parle et dont Macron avait parlé une fois, qui devraient détenir le pouvoir ici-bas. Et notamment, on voit que Jacob, je ne sais pas si c'est Jacob, hein, l'un des deux, lui, il a plus de pouvoir, il doit avoir plus de pouvoir. Il se donne, il se drape la légitimité de ce pouvoir-là, c'est vrai, mais ce qui n'est pas bien, c'est qu'à côté, les autres sont les goyim. C'est-à-dire des espèces d'animaux, c'est nous tous, hein, tout le monde, et que ça donne droit au délire qui dit que, y a une race supérieure, on en revient hein, à la race ariane, divine cette fois-ci, et les autres sont là pour servir cette race-là, sauf que autant les choses auraient pu se passer divinement. C'est-à-dire dans la grâce et tout en souplesse. Mais lorsqu'on les fabrique comme le réseau Epstein, on voit très bien qu'il y a un problème avec la divinité, avec cette forme d'expression de la divinité. Donc Trump, c'est vrai, il a fait les accords d'Abraham. Je ne sais pas, ils n'ont pas tous abouti. Enfin, ils n'ont pas abouti. Ils sont pas allés jusqu'au bout. Tout le monde n'a pas encore signé. Qui réunissait Israël, qui établissait une forme d'alliance, voilà, nouvelle alliance entre Israël et les États arabes autour, pour ne plus s'entretuer, ne plus faire de guerre, pour une entente cordiale, les enfants d'Abraham réunis, Ismaël, Jacob, c'est pas trop, je ne connais pas les noms, mais si je me trompe, vous corrigerez. Et c'était très bien. Mais là où il y a un problème avec ces accords d'Abraham, c'est qu'eux aussi, ils niaient automatiquement l'existence de la Palestine, d'un État palestinien. Ça, c'était un problème. Et surtout, il niait la diversité religieuse de de cette, je sais pas comment on appelle, Terre Sainte, qui fait que Jérusalem, qui devient la capitale unique de Tel Aviv, enfin de Tel Aviv, c'est une façon de dire, d'Israël, il y avait quand même un souci, parce que Jérusalem, c'est une capitale partagée. Donc, Monsieur Trump aussi, une fois qu'on a dit cela, parce qu'il faut aussi dire à sa charge, je sais pas, je veux pas dire à sa décharge, on complète en disant, oui, une fois qu'il aurait fait cela aujourd'hui, s'il était là, que ferait-il? S'il était là aujourd'hui, que ferait-il? Est-ce qu'il continuerait à encourager Israël et à geler les pays arabes pour pas qu'ils interviennent en les menaçant? Est-ce qu'il ferait du Biden, en fait, aujourd'hui, pour protéger ces accords d'Abraham? C'est une grande question parce que les rejoint ce qui a, alors vraiment, ce qui justifie vraiment tout ce qui est en Ukraine et ce qu'on voit avec depuis le 7 octobre avec Israël, c'est une sorte d'accélération du calendrier tout d'un coup par les États-Unis parce que les États-Unis sont en faillite. Il n'y a plus d'argent et menacé d'être déclassé, passer deuxième, troisième, quatrième position, on ne sait pas, par les BRICS, parce que s'il n'y a plus le dollar, c'est terrible. Alors il faut que les États-Unis, comme un empire décadent qui va s'écrouler, dans un dernier effort, on va dire, je vais dire, c'est comme quelqu'un qui est en train de délirer avant de mourir, dans ce dernier délire, ils vont entamer une autre guerre, une énième guerre pour le pétrole. Partout en Amérique du Sud, ils ont fait les guerres pour le pétrole. Et là, l'Irak, la Syrie, la Libye, c'était pour le pétrole. Et on se rend compte maintenant que en Ukraine, c'est aussi la même chose parce que la Crimée étant revenue à la Russie, c'est les matières premières, les matières premières, la matière première qui s'en va. Il faut faire la guerre pour récupérer la Crimée. Et on dit que Poutine a envahi l'Ukraine, mais c'est pas le territoire qui est en jeu, c'est la Crimée. Et toujours pour le pétrole. Et de l'autre côté, on arrive à Gaza, on voit très bien qu'une fois qu'ils ont été mis en difficulté du côté de l'Ukraine, tout de suite, il y a une éruption de la guerre à Gaza. Ce n'est pas par hasard, parce que là-bas aussi, Gaza, ben, c'est un autre coin où on a découvert du gaz, du pétrole, en très grande quantité. Donc les États-Unis ont besoin de ça pour continuer à survivre, toujours des guerres pour le pétrole. Est-ce que Trump, alors, en arrêtant de faire ces guerres, est-ce que ça veut dire la chute totale de l'Amérique? Trump s'en défend, lui dit, c'est vraiment une autre philosophie qui revient à l'avant-trafic hein, des multinationales, la période démocratique, où c'est le progrès et la créativité, la compétitivité qui doivent faire que la richesse, qui doivent faire la richesse des nations. C'est pas le trafic, les trusts, à n'en savoir plus quoi penser, jusqu'où ils s'arrêtent. C'est pas ça qui fait, ou alors tous les trafics au niveau de cette monnaie qui est de monnaie de papier, qu'on peut trafiquer comme on veut. C'est pas ça qui fait la richesse des nations. La richesse des nations, elle doit être réelle, c'est-à-dire basée sur des entreprises, basée sur le travail, c'est-à-dire sur des classiques. Et ça, quand vous dites classique, au nouvel ordre mondial, vous les tuez parce que ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire donc pour arrêter Trump? Mais il faut et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'arrêter? Il faut tout faire. Il faut tout faire. Et après tout, on l'a vu après le 6 janvier, il était libre. Ce fameux 6 janvier dont on dit pour lequel qu'on évoque pour dire qu'il a appelé à l'insurrection. Il parlait. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que mais les élections approchent, les sondages donnent Trump gagnant. Donc il faut, enfin on lui donne le vent en poupe. Donc il faut vraiment l'arrêter. Alors, à commencer les procédures de justice, on a commencé par les documents top secret. En Floride, on allait faire des fouilles, le FBI, le RAID. Il y a eu la Géorgie qui dit que oui, Trump a voulu interférer dans les élections pour changer le cours de l'élection. Et c'était pas normal, c'était une forme un peu de corruption. Il y a eu sur sa situation, ses impôts qui ne seraient pas bien déclarés. Il y a eu une femme qui a parlé de sexe. Et puis maintenant, on en revient au 6 janvier. Alors, 6 janvier, question, Trump sera-t-il inéligible, déclaré inéligible? Voilà, c'est ça le combat. En fait, c'était ça le piège. On devait en arriver là. On devait en arriver là d'abord parce que quand je disais tout à l'heure, j'ai un autre ou alors la supériorité des races, Madame Nancy Pelosi, qui était la reine de Washington parce qu'elle était la speaker pendant longtemps. Nancy Pelosi, partie, ben, c'est pas possible parce qu'elle fait partie. Ce sont des pions essentiels à l'agenda. Si elle n'est plus là, c'est un problème. Donc, il faut qu'elle revienne. Et elle fait un travail extraordinaire là-dessus pour que on arrive à enfermer, à déclarer Trump inéligible. Et c'est une question qui nous rappelle, oui, qui m'a fait penser à la France. En France, moi, j'ai été candidate deux fois. Une fois, d'ailleurs, j'ai été déclarée inéligible pour les 5 ans qui suivaient, parce que j'avais pas bien déclaré mon bilan comptable, c'est plus comment l'appeler, j'ai oublié, n'était pas bien clair. En fait, ce qui s'était passé, j'ai eu des petits soucis au niveau de celui qui devait faire, j'ai oublié les noms d'ailleurs, c'est un nom, celui qui devait s'occuper de ça, il était finalement interdit bancaire, mais il avait dit, oui, je peux le faire, et finalement, il ne pouvait pas le faire. Donc, on a eu des petits fonds pour un 75 euros qui traînaient par là, que ça n'a pas été déclaré, tout et tout. Ça suffisait pour me déclarer inéligible pour bilan comptable pas clair. Bon, bref, tout ça pour dire quoi? Que lorsque l'élection se termine, qu'on regarde les comptes de campagne, on l'a vu avec Sarkozy par exemple, et qu'on déclare que vos comptes de campagne sont faux, enfin, ou sont sujets à caution, on prend une sanction, c'est dans l'année qui suit, et ça ne traîne pas, et on vous déclare inéligible. C'est tout de suite pour l'élection prochaine. Mais on n'attend pas un an avant l'élection pour vous dire que oui, bah attendez, l'année prochaine, vous n'êtes pas éligible. Bon, c'est quand même fort de café, ça ne marche pas comme ça. Donc, on voit déjà le piège au niveau en termes de délai constitutionnel pour déclarer l'inéligibilité d'un candidat. Et s'agissant donc de ce 6 janvier qu'on évoque, parce qu'il y a déjà certains États qui ont dit ah oui, il ne sera pas sur la liste et tout. Bon, la Cour suprême, elle, se prononce pas, elle reste ambiguë sur la question. C'est dommage parce que le premier L'acte d'accusation, c'est qu'il aurait fait obstruction à un processus institutionnel, j'allais dire un processus qui est constitutionnalisé, donc c'est un peu un outrage à la démocratie, et c'est ça qui fait que Biden dit tout le temps que Trump représente une menace à la démocratie. C'est par rapport à cet acte d'accusation-là, il ferait obstruction. Mais quand. Et c'est là où le coup de force, le jeu de pouvoir réussi, jeu est un autre. Lorsque vous entrez, vous trafiquez un processus électoral en sorte que vous pouvez tricher comme vous voulez, et puis la Cour suprême ne dira rien, la victime doit faire quoi en tant que démocratique? Je crois que c'est justice aussi que la victime se sente lésée et fasse. Et demande à ce que la loi ou le droit s'applique. Mais si donc les autorités, la Cour suprême se taisent et disent qu'il n'y a pas matière à regarder ce qui va être contesté, que la contestation était un peu dilatoire, c'est malsain si le processus, ou pas si, dans ce cas-ci, ça a été avéré dès lors que le processus a été clairement frauduleux. Bon, alors, on ne sait plus où commence la liberté d'expression, où finit la liberté de contestation. Donc, c'est très compliqué, pas compliqué, c'est très fumeux. Cette justice américaine qui fonctionne comme elle fonctionne, c'est bon, à la limite, je n'ai pas dit que c'est leur problème, mais ça fait, ça rejaillit sur la France. Vous avez une France aussi qui est comme ça, un peu les gens, les dirigeants sont limite avec le droit et vous ne pouvez pas les coincer. Et notamment avec aussi la morale, parce que, et même l'esprit de la loi, parce qu'au-delà de la loi, il y a l'esprit de la loi. Monsieur Macron, il est, tel qu'il a été élu, il devrait être en cohabitation. Il ne peut pas nommer un premier ministre de son bord. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'esprit de la loi, il est dans l'abus de pouvoir. Alors, si Madame Borne, qui est partie, a appliqué le 49-3, combien étant de fois ou 29 fois, c'est la folie. Voilà, Monsieur Macron ne peut pas revenir et prendre un ministre de son bord, ancien porte-parole et tout depuis le temps, pour nous le ramener maintenant comme Premier ministre. Et puis ce jeunisme-là est offensant. Il est offensant parce qu'on sait très bien que toute la génération qui revendique le jeunisme est imprégnée de notre système aujourd'hui, qui fait que on a remplacé toutes les valeurs par le bling-bling, par le jeunisme, des idéologies comme celle-ci, par l'idéologie du corps, par l'idéologie du paraître. Bon, un premier ministre a 34 ans, c'est pas ce que j'ai vu ou vu. C'est quand même ridicule. On a vu ça un peu, je ne sais pas si c'est en Australie, on l'a vu quelque part. Premier ministre a été remplacé par parce qu'il n'était pas d'accord avec l'agenda 2030, le New World Order. Et on a remplacé par une jeune femme qui n'avait jamais été élue quelque part. Et puis, bon, c'est elle qui est Premier ministre parce qu'il y a les réseaux. Vous voyez, c'est plus le peuple qui choisit, c'est comme ça. Et on va vous dire que c'est une procédure tout à fait naturelle dès lors que les parlementaires qui sont de mèche avec le système, les élites, on s'en sort pas, on s'en sort pas, et on a ce fait de guerre quand même, où on se rend compte que le staff de tous les grands médias est judéo-sioniste, je sais pas quelle expression est utilisée, le staff, hein, les principaux décideurs, judéo-sionistes, sans pitié. S'ils sont 30, le staff doit prendre 30 personnes, c'est 30 personnes. Le Covid, les différentes institutions qui étaient chargées de gérer ce Covid-là, le CDC Center, bah, c'est pareil, on a interrogé M. Fauci, qui était le directeur, et il dit qu'il ne se souvient plus de rien. Il se souvient plus, c'est très flou dans sa tête. Lui aussi, tout le staff était judéo-sioniste. Vous arrivez au niveau de l'administration Joe Biden. Vous voyez que Madame Kamala Harris, son mari est judéo-sioniste. Vous avez une candidate qui est prête à remplacer Trump, qui a été formatée depuis, qui a été, oui, enfin, c'est programmé depuis. C'est Madame Haley, qui était gouverneure, ancienne gouverneure de la Californie, Californie du Sud, que Trump a propulsée comme ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Vous voyez? Et ensuite, vous avez le secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui est un judéo-sioniste avéré. Bon, alors, avec ça, soit vous désespérez, soit vous essayez quand même de lever la tête comme Trump le fait. Et quand vous avez cette étude qui dit que la génération Z, ils appellent, c'est les enfants nés de 1997 à 2012, dont ceux qui sont âgés de 18 ans à 29 ans, je crois, qui a très peu connu, donc une génération qui a grandi avec les écrans, qui ont une relation interpersonnelle médiatée par l'écran. C'est des enfants qui, c'est des jeunes qui sont un peu désemparés parce que les écrans ne leur montrent pas, ne leur donnent pas de repères identitaires. On flotte comme ça dans la publicité, dans le jeunisme de Monsieur Attal et de Monsieur Macron. Ils n'ont pas, en termes de Ils n'ont pas de force intérieure, ils se sentent vides intérieurement parce qu'ils ne connaissent même pas l'histoire, ils connaissent mal l'histoire, on a fait des tests. Ils n'ont pas les figures, une image du roman national avec les héros, voyez, à travers lesquels ils peuvent se projeter ou des grands mythes, on leur enseigne plus tout ça, ils voient bien des sculptures, mais ça leur dit rien, c'est pas enseigné, c'est même interdit d'être enseigné en ce moment aux États-Unis parce qu'on va vous dire que vous êtes, je sais pas, c'est woke, un truc comme ça, un genre d'insulte. Et les enfants n'ont pas de repères identitaires, ils se cherchent, beaucoup souffrent d'isolement, de solitude, les filles sont spécialement, particulièrement matraquées par l'image sous pression de la femme parfaite, au corps parfait, elles subissent ça, et plus elles subissent ça, plus ça les rend malheureux. Alors, il y a une enquête qui a étudié ce malaise de cette génération et qui s'est dit, il y a un problème. Il y a aussi ce vide, surtout chez qui il n'existe pas de parcours religieux, ils ne sont pas attachés à une communauté religieuse, ils ont des communautés, comment on va dire, cathodiques, hein, voilà, sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas de réelle communauté leur permettant de se sentir comme ça, sécurisés et pouvant avoir un projet. Ils n'ont pas de projet. Ils ne savent pas ce que c'est. Et après, il y avait donc des choses qui leur permettaient de se fixer, d'avoir des repères dans la vie. Toutes ces choses ont été ringardisées. Parmi ces choses, donc en tête, la religion, avec tout ce qu'il y a autour, les ramifications, et en deux, le mariage. Donc, c'est des gens qui ne se marient pas. On leur a dit que le mariage, c'était rien. Il fallait être trans, changer de sexe, changer de partenaire. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est le grand vide et beaucoup connaissent ce qu'on appelle des tentatives de suicide. C'est sur un plan, ce nouvel ordre mondial, sur un plan spirituel, on ne va même pas parler, sur un plan social, sociétal, c'est terrible. C'est terrible, d'autant plus qu'on vous empêche de parler. Si vous parlez et vous dites des choses contre cet ordre-là, vous êtes antisémite, hein? Comme par hasard. L'antisémitisme est devenu le mot qui vous cloue le bec. Et la présidente de Harvard vient d'en faire les frais. Elle a dû démissionner, Claudine Gay. Une blague. Mais je ne pense pas que c'est parce qu'elle est black. Bon, peut-être que le fait qu'elle soit black, c'est une circonstance aggravante parce qu'elle a laissé les étudiants d'Harvard s'exprimer, de dire ceux qui étaient pour Israël et ceux qui étaient contre. Bon, c'est des jeunes, ils ont organisé des manifestations et de toute façon, l'opinion publique mondiale a pris fait et cause pour la Palestine, pas parce que c'est la Palestine, mais parce que on peut pas tuer les gens comme ça et vous regardez. Quel que soit celui qui a raison ou tort, la question se pose plus. Les 10 commandements, il est interdit de tuer, ne tuera point. Point. Donc on dit ça se discute pas. Et puis en masse comme ça, de façon ostentatoire, fuite en avant, Israël dit que ils ont gagné la guerre, ben oui, ce sont eux qui le disent, hein, tout c'est la propagande. D'abord, quelle guerre, le grand Israël, le petit Gaza, quelle guerre ils gagnent, ils mettent tous les moyens en jeu. Mais Claudine Gay a été donc très vite auditionnée par le Congrès américain, la House, qui est donc un jeu de miroir, je est un autre, c'est un autre, quelqu'un a dit, c'est pas moi, un autre Tel Aviv en miniature là-bas. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent si certains sont en plus associés au réseau Epstein? Ils vont dire ce qu'on leur dit dire, c'est-à-dire qu'elle, là, il fallait pas qu'elle tolère le moindre discours visant à critiquer, mettant Israël en cause, il fallait pas qu'elle tolère ça, il fallait tout de suite censurer. Et elle a carrément tenu tête, elle a dit non sur un plan académique. Ils ne peuvent pas, elle n'était pas là, elle est venue avec ses collègues parce que ses collègues l'ont soutenue. Et ils ne peuvent pas empêcher les étudiants de penser parce qu'alors ce serait contraire à la déontologie même universitaire. Bon, les étudiants doivent penser. Bon, évidemment, tant qu'on n'appelle pas à tuer quelqu'un, ça c'est autre chose. Mais, et même, c'est que la pensée, c'est qu'un débat, on lance le débat, mais on ne va pas interdire, tuer le débat à la base parce qu'on est en train de former les jeunes. Il faut nous déjà les formater pour le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un ordre moutonnier. Et bien sûr, vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire, vous êtes sanctionné, vous perdez votre carrière et tout. Alors, du coup, on l'a accusé de plagiat. On l'a accusée de, oui, d'incompétence parce qu'elle n'a pas su gérer l'antisémitisme. Qu'est-ce qui se passe là? Le plagiat, bah, ça fait depuis qu'elle est docteur, hein, ils avaient le temps de voir. Ce qui se passe là, c'est toujours ces effets de chantage et c'est surtout la volonté de ceux qui ont programmé le nouvel ordre mondial de conquérir tous les territoires de la société. Ils ont déjà conquis, pardon, les territoires financiers, etc., etc., diplomatiques, politiques, militaires, l'intelligence, n'en parlons plus. Il reste les académies, l'université. Alors, il faut entrer dedans. Comment entrer dedans? Il faut commencer à financer. Après, comment financer? On commence à influencer, à jouer, à influencer les programmes, ce qu'il faut apprendre, enseigner aux gens ou pas. Et on commence à former les robots. Voyez? Et ça accroît encore l'isolement parce que quand ils ont commencé à faire cela, parce que ce qu'ils proposent, c'est quoi? C'est peut-être la glorification d'Israël, basée sur quoi? Israël, c'est peut-être pour un religieux, disons, ou pour les habitants d'Israël, bien de faire toute une épopée sur le roi Salomon, le roi David, bon, celui qui est chrétien, il comprend, mais celui qui est américain, qui n'est pas forcément chrétien, il a un autre roman aussi. Et dans le roman national, il n'y a pas que les religieux, il y a un peu tout. Et c'est à chacun de s'identifier à son héros. Et maintenant, s'il faut que les héros tels que Israël le conçoit soient les seuls, ces héros à eux soient les seuls reconnus dans le monde entier, ça efface complètement la notion d'identité. Là, je veux dire, je sais pas où on va là. Je sais pas où on va. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est la folie. C'est la folie. C'est les différences. C'est fini. C'est plus qu'Hitler. Enfin, je ne vais pas dire Hitler, parce que Hitler, lui, il imposait par la force, alors que là, on instrumentalise la religion, hein, à des fins de captation des esprits et du monde. C'est complexe, mais ça marche. Ça marche si les gens ne prennent pas conscience qu'il faut quand même résister. Il faut résister à tout cela. Et Trump est un résistant. On n'aime pas les résistants. On va donc lui faire, hein, on va faire pendre la justice sur sa tête comme une épée de Damoclès. Mais la justice, c'est pas une épée de Damoclès, c'est tout sauf cela. Et c'est dommage qu'on en arrive là. Mais bon, c'est le cours de l'histoire. Il faut pas être. Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste et je suis d'autant plus optimiste que je ne crois pas que la justice américaine va quand même se mouiller jusque-là parce que le vent a tourné. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Elise Mbok. Je vous dis. à bientôt.
Hit my knee.